Bonjour. Alors, la question qui m'a été posée m'a particulièrement intéressé, puisque je suis dans l'introduction, là, je vais un peu situer ma démarche, ce qui me fait parler aujourd'hui. C'est vrai que la question, elle est un peu différente des questions habituelles. Perception de la violence. Bon, perception, permanence et variation. Parce qu'effectivement, la dimension subjective a plus que sa place, vous vous en doutez. D'ailleurs, vous êtes aussi, autant que moi, les premiers bien placés pour le savoir, puisque ça commence toujours par là. La perception de la violence, elle est toujours prismée par nos propres préoccupations, notre histoire. Et dès que le terme est évoqué, il y a immédiatement des images, voire des situations dramatiques qui peuvent être présentes. Entre nous, dans les propos qui se tiennent. Alors, moi je travaille sur ces questions depuis très longtemps. J'ai été amené à démarrer probablement le premier et le seul cours pour l'époque, dans les débuts des années 80, sur la violence dans le champ éducatif, les violences à l'école, à Nanterre. Et c'est vrai que, bon, j'ai vu à peu près défiler d'ailleurs à peu près tous les gens qui aujourd'hui en parlent, puisque j'avais commencé dans les années 75, hein, 70-75. Et pourquoi ? Bon, tout simplement, sur un parcours personnel, revenu de loin, d'ailleurs, j'arrivais de Madagascar à cette époque-là, je vais vous parler de plusieurs pays aujourd'hui. Je prendrai quelques vignettes sur la violence dans différents pays, pour relativiser les choses. Donc je revenais de Madagascar, où commençait à peine le travail dans le sud, vous savez, les fameuses mines là, qui sont maintenant surexploitées, mais enfin bon, c'était Madagascar. Et c'est vrai que mes rencontres là-bas m'avaient déjà intéressé à cette question. Et puis assez vite, étant enseignant, j'ai été pendant 3 ans enseignant en lycée professionnel, CET à l'époque. Et puis, je cherchais des réponses en même temps que j'avais des questions. J'ai toujours cherché des réponses, hein. Soyons d'accord là-dessus. Et je les ai trouvées assez vite, et en particulier dans la pédagogie institutionnelle, hein. C'est vrai que dès 66-67, je rencontrais Fernand Houry, et puis je m'intéressais au premier livre qui venait de paraître, Vers une pédagogie institutionnelle, que j'ai dévoré. J'ai rencontré 3 jours après. On ne s'est jamais plus quitté, il est mort il y a 10 ans. Mais je continue à fonctionner avec tous ces réseaux. J'ai monté en 84 une édition qui s'appelle Matrice, hein, vous trouverez sur Internet. Matrice, on a publié 100 de livres. On a fait des scores, parce que c'est une association bénévole, associative, articulée sur nos réseaux, y compris étrangers. On est 3% occupés. On a quand même vendu 100 000 livres aujourd'hui. Et ça continue de fonctionner. Matrice, c'est violence et pédagogie. C'est le titre d'un de mes livres d'ailleurs. Alors les réponses, elles passeront, c'est pas par une école, hein, mais elles passeront par quelque chose de cet ordre. La pédagogie, les pédagogies institutionnelles. Et c'est avec Houry et d'autres, dans les classes difficiles où ils se situaient déjà à l'époque, hein, parce que la violence ne date pas d'aujourd'hui, vous en doutez, mais on n'en parlait pas. Pas de médiatisation. Donc c'est vrai que moi où j'étais, à Cormeilles-en-Parissy, il y avait des phénomènes extrêmement durs dans le CET, des tabassages, du racket déjà, des bandes organisées. Bon, on était quelques-uns à s'en occuper, parce que ça nous intéressait. Puis par ailleurs, moi j'étais quand même engagé politiquement, syndicalement. Je pratiquais les arts martiaux aussi, ce qui pour l'époque n'était pas trop gênant. Et au contraire, puisque j'avais un club dans l'établissement, par exemple, où j'étais, et qu'il m'a servi, ce club, à pas mal de médiations. Violente, non violente. Bon. Et ce que je suis en train d'indiquer, c'est que violence, pédagogie en interface, hein, c'est de ça que je vais traiter. Et c'est vrai que ça passe toujours par ce que j'avais appelé beaucoup plus tard, le coefficient angoisse-émotion. Alors j'ai aussi beaucoup travaillé sur la dimension personnelle, hein, c'est pour ça que je vous parlais arts martiaux, parce qu'on a monté des stages d'approche de la violence dans lesquels il y avait de l'implication physique, et on en a fait 150, hein, avec la protection judiciaire, l'éducation nationale, avec des ministères, enfin différentes organisations, des institutions de terrain, y compris à l'étranger. Et les caractéristiques, c'était, oui, d'accord, on avait démarré comme ça en 78-80. Parler de la violence, c'est bien. Un jour, un groupe vient nous voir. Enseignants, éducateurs, c'est bien de parler de la violence, mais comment aller plus loin sur cette question? Bah, la vivre. Et la semaine suivante, on démarrait par 2 jours de mise en situation violente. À Savigny-sur-Orge, d'ailleurs, l'école nationale, l'une des écoles nationales à l'époque de la protection, enfin, de l'éducation surveillée à l'époque. Alors, le coefficient angoisse-émotion, c'est ça, tout au long de ce que je vais dire. C'est vrai qu'il faut avoir ça en tête. Vous et moi, nous sommes différents, radicalement. Même si on va aller vers des définitions, une échelle, une perception, il y a un moment où il faut des accords, mais il y a des variations. Et la grande variation, c'est que vous et moi, nous sommes des êtres humains, et suivant le degré d'isolement, de fragmentation, par exemple, de l'établissement dans lequel on se trouve, la situation du contexte et la dramatisation, par exemple, du quartier, bon, ben, vous savez bien qu'on ne va pas être dans le même état d'esprit le matin en arrivant au travail. D'ailleurs, c'est facile à observer. Et si vous êtes à l'entrée de l'établissement, je me souviens aux Mureaux dans les années 80, j'ai suivi les Mureaux pendant 10-12 ans, étant à l'époque chargé de mission par le recteur Frémont, circulant beaucoup en France, hein. Mais j'entendais tout à l'heure, là, en lien avec des groupes existants, je ne sais pas si vous les connaissez encore, les fiches là de situation critique, etc., nous en avions déjà en 85-90, hein, avec les ministères. Le Gaspard à Lille a monté des choses, et j'ai travaillé avec eux dès le début, dans les années 80, hein, entre nous. Vous voyez, donc, on oublie, mais... Fortin, Cirner, etc., bon, que je vois toujours de temps en temps, c'est vrai que le Gaspard a fait un travail énorme, par exemple, mais pas seulement le Gaspard. Alors, le coefficient angoisse-émotion, ça veut dire que la sécurisation, j'ai écouté ça aussi tout à l'heure, c'est vrai que la sécurisation, j'ai fait des cours aussi pour un master sécurité 3 ans à Nanterre ces dernières années, je suis professeur émérite à la retraite, là, émérite parce que j'ai pas mal de thèses, et la sécurisation, elle est mentale. J'avais tout un cours là-dessus. C'est-à-dire que la sécurisation, bien sûr, il y a tout le reste, hein. Tout compte. L'aménagement des tables, des chaises, l'amphi, fixé au sol ou non, c'est vrai que ça dépend ce qu'on veut faire, les incidents qui peuvent se produire. On pourrait établir une fiche technique et critique de la situation dans laquelle nous sommes ici. Très vite, matériel. Bon, mais après, il y a tout le facteur humain qui va être radicalement différent, quoi. C'est-à-dire que ça va, il peut se passer des choses entre nous. Les uns paniqueront, ou les unes, ou pas. D'autres vont se manifester comme des leaders sécurisants, d'autres insécurisants. Et si le feu prenait et qu'on puisse plus sortir, il faudrait que quelques secondes pour qu'on soit ramené à cette simple expression angoisse-émotion, quoi. Ça va toujours très vite. C'est ce qui se passe quand on est confronté à des phénomènes de violence importants, ce qu'on appelle dans les notes d'information, là, les cas graves, les violences graves, les atteintes contre les personnes, par exemple. Ce qui m'a amené à l'époque sur des positions assez marquées, que je vais évoquer maintenant, par exemple, aller collaborer avec la police. Bon, j'ai donc, si je reparle de ma trajectoire, hein, c'est vrai que j'ai vu plusieurs épisodes dans la construction de ce phénomène de violence, y compris médiatique ou ministériel, et je vais les reprendre maintenant parce que ça a beaucoup bougé en 30 ans. Beaucoup. Je suppose que vous avez tous lu le bulletin d'information qui faisait le bilan l'an dernier ou les derniers. Bon, ben, c'est vrai que l'atteinte contre les personnes, par exemple, l'atteinte contre les personnes, c'est quelque chose qui monte en force depuis 10 ou 15 ans, mais c'est quelque chose qui est aussi découpé par le ministère, par la justice et la police, et c'est quelque chose qui est mis en exergue depuis 15-20 ans. Si vous prenez ce qui se passait du temps de Signa et au début de Signa, ou au début des années 90, vous aviez un mélange des violences tellement complexe qu'on ne s'y retrouvait plus, par exemple avec des confusions qui étaient légèrement horripilantes, mais les agressions contre les personnes étaient confondues avec les auto-agressions, les suicides ou les mutilations, et vous aviez comme ça un panier violence dont on ne se débrouillait pas beaucoup. Il faut faire très attention aux statistiques, il faut les croiser avec toute une série d'autres, et puis toujours revenir à 6 mois d'intervalle ou 1 an d'intervalle sur les chiffres et voir un peu le contexte aussi. Alors, ce que je vais évoquer maintenant, c'est en 4 temps les choses suivantes. Hein. Alors, où on en est en France, très vite, vous pouvez le consulter sur Internet. L'évolution plutôt, comment je l'ai vécu. J'ai été de tous les épisodes depuis 80. De définir et comparer, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment faire. J'ai passé beaucoup d'années là-dessus. J'y reviens tous les ans. Parce qu'autant on peut dire la subjectivité de la violence et la respecter, elle est présente. C'est vrai qu'il faut commencer par là. Par exemple, quand on traite, vous le savez, dans les interventions dites de crise, j'en ai pratiqué aussi pas mal. C'est vrai qu'il y a des moments de parole ou des moments très intenses où c'est par là qu'il faut passer, quoi. On s'en fout des statistiques à ce moment-là. Il faut passer par les épisodes où, bon, les Mureaux, toujours il y a 25 ans, une émission de FR3 que vous avez peut-être vue, enfin les vieilles et anciennes, hein. Le recteur Frémont a porté plainte d'ailleurs, parce que c'était sur un des collèges que je connais très bien, et on voyait, ils avaient organisé, les journalistes avaient même sollicité des élèves pour organiser un grand chahut dans une classe, mais qui tournait très très mal, avec des tables qui volaient, etc. Et à un moment, l'enseignante est bousculée, et d'ailleurs, elle était tombée, elle s'était cassée le bras. C'était provoqué et complètement organisé. On voyait aussi dans ce film tout à fait désastreux, comme par hasard, des interviews très ciblées de jeunes maghrébins, et puis après de jeunes blacks. Et on voyait, on avait compté, on a revu le film, je ne sais pas, 20 fois, on avait compté que, bon, le public ordinaire des collèges lycées était absent, quoi. Hein. Donc, quand vous aviez vu ce film, je l'ai passé dans plein d'endroits, c'était l'émeute, mais l'émeute maghrébine et subsaharienne, parce qu'effectivement, il y avait quelque chose d'un montage qui organisait une vision très particulière des choses, hein, d'accord. Et cette enseignante est arrivée dans un de nos stages, elle est arrivée, elle s'est effondrée en larmes dans le premier quart d'heure, et je l'ai laissé parler, je lui ai donné la parole, elle a parlé pendant 2 heures. Et elle a tout raconté, on a construit la journée sur ce qu'elle disait. Donc elle a raconté tout ce qui lui était arrivé, pas seulement le fait que sa classe avait comme par hasard été prise, et pourquoi ? Parce qu'elle était le bouc émissaire dans le collège où elle se trouvait, et qu'avaient dit les collègues rien, parce que le bouc émissaire, théorie de l'angoisse élémentaire chez Laborie, le bouc émissaire, il sert à éponger la violence, il la concentre, donc il permet aux autres de lui échapper, et par conséquent, dès qu'un établissement est déstructuré, un collectif se déstructure, l'appel au bouc émissaire est presque collectif, enfin c'est plus du collectif, c'est du groupe. On va distinguer les deux choses, hein. Et donc effectivement, elle était dans cette position victimaire, très girardienne, érigée comme ça, et elle servait à ça, mais depuis un moment, hein, 1 an. Je pourrais rentrer dans le détail, pourquoi, comment, parce que j'ai été voir le chef d'établissement, un nouveau chef d'établissement qui arrivait après quelqu'un d'autre 12 ans après, qui elle régnait vraiment sur l'établissement, avec toutes des groupes comme ça qui travaillaient beaucoup avec elle, une très forte synergie. Et puis lui, il arrivait, il était un peu déphasé, nouveau. Je pense qu'il avait peur. Il avait fait changer son bureau de direction, il l'avait installé au fond d'un couloir. Elle était en face de la cour, lui s'était mis au fond d'un couloir, avec vision sur l'extérieur. Il sortait presque pas de son bureau, il procédait par note de service, vous voyez ce que je veux dire. Je caricature pas, je l'attaque pas. Hein. On sentait qu'il était pas à sa place. Il voulait pas rester au bureau. Donc il s'est très vite passé les choses que je vous dis là. C'est pas que le chef d'établissement, mais malheureusement pour vous, si je puis dire, puisque vous êtes quand même pas mal là-dedans, c'est vrai que le chef d'établissement, à un moment, s'était amusé avec des spécialistes à chiffrer les choses, hein, au ministère, dans la période 90-96. Il y avait quand même 150 chercheurs, 15 groupes, financés et soutenus par les ministères, partenariaux, pour chercher sur la violence et trouver, et on a trouvé. C'est vrai qu'on était à peu près d'accord pour dire qu'il faisait les deux tiers du climat. Pas tout seul, mais les deux tiers du climat d'un établissement. La politique, on va dire, du chef d'établissement, comment il s'organise, comment il est environné, avec qui il travaille, enfin, etc. Bon. Alors, où en est la France ? Où en était-on ? Plutôt anecdotique, hein, mais je vous dis comme ça. Les premières fiches, moi j'ai vu les premières fiches sur la violence. J'étais même au ministère avec deux chefs d'établissement et c'est nous qui avons rédigé la première fiche de signalement dans les années, fin des années 80. On commençait à voir venir les choses. Moi, je circulais beaucoup. Une de mes caractéristiques, c'est les terrains sensibles. Mais des fois, j'y vais pendant 6, 8 à 10, 12 ans. Et j'ai pas mal circulé. Bon, mes zones de prédilection, c'était évidemment quand même assez près de Nanterre. Donc j'étais beaucoup au Mureaux, j'étais beaucoup sur Mantes-la-Jolie, Goussainville, mais j'ai circulé en France un peu partout. Et depuis 7-8 ans, dans le monde entier, là, enfin pas entier, mais j'ai circulé aussi. Ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a réveillé d'une espèce d'enfermement français. Ça avait été une des premières choses, là, quand on rédigeait nos fiches, en 87-88, des premières fiches, on s'intéressait aux anglo-saxons. Je suis allé voir ensuite, hein. Angleterre, France, etc., à partir de 90-91. Et vous le savez sans doute pas, j'avais quand même été étonné que les anglo-saxons soient sur les violences à l'école depuis très longtemps, et que le spécialiste incontesté en Europe, Dan Olvius, qui est un Danois, enfin un Suédois qui travaille au Danemark, qui dirige un laboratoire de psychologie à Oslo, et Dan Olvius, il est là-dessus depuis les années 60. Je l'ai rencontré il y a pratiquement 16 ans, oui, à Strasbourg, à un congrès de victimologie. Et Dan Olvius, ça fait qu'un livre que j'ai fait traduire en 79 chez ESF. Dan Olvius, alors le titre anglais c'est Bullying, je vais y revenir, il parle pas de violence. Hein. Bullying, What We Know, What We Can Do. Ce qu'on sait, ce qu'on peut faire. Qui a été traduit en français, vous voyez déjà, subjectivité. On a mis un an pour trouver un titre. J'avais des experts internationaux de plusieurs langues. Impossible de trouver une équivalence au mot bullying. Le mot bullying, on l'a traduit par, finalement, le titre actuel, c'est violence, harcèlement et brutalité. Et l'éditeur a tenu à ce qu'on mette en bas, en dessous, entre élèves. Très français, ça. La violence, c'est entre élèves, on sait. Enfin, vous le savez sans doute. Il n'y a pas d'autre violence. Enfin, elles apparaissent un peu là dans le bulletin d'information, mais du bout des lèvres. Hein. Depuis le début, c'est du bout des lèvres. Hein. Et quand j'avais rencontré Olvius, il m'avait dit justement qu'il faisait une recherche, figurez-vous sur quoi, sur le harassment des meilleurs élèves par les professeurs et les familles conjuguées. Le harcèlement des meilleurs élèves. Mais ça, nous, ça nous était... Alors ça nous est venu à l'idée à Nanterre. Hein. On a fait quelques maîtrises autour de ça et on en avait découvert des choses importantes. Je vous parle toujours des fins des années 80, début des années 90. Donc les premières fiches, l'alternance, enfin la période de cohabitation aussi. Il se trouve que je suis de la région mâconnaise, donc je connaissais bien l'état-major de Jox, qui à l'époque était au ministère. C'est comme ça qu'au ministère a commencé le travail de liaison étroite avec la police. C'est pas moi qui suis là-dedans, mais j'étais associé à cette problématique-là. Et je me souviendrai toujours d'être entré dans le bureau de Jox avec son chef de cabinet, etc. Il avait deux bouquins à moi sur le bureau. Et il voulait absolument que je me mette de la partie pour justement pousser ses études et d'autres choses. J'ai accepté. Mais alors là aussi, subjectivité, je vous le dis au passage, c'est pas pour mes faits glorieux, c'est parce que ça nous a plutôt mis dans l'embarras. Parce que devant moi, il a fait téléphoner par son chef de cabinet à Gilles-sur-Yvette, donc à la police, en disant « je vous envoie quelqu'un qu'il faut absolument mettre dans les formations ». Le chef de cabinet. Résultat, la semaine d'après, avec mon groupe, là, on était 7-8, on arrive à Gilles-sur-Yvette, tout le monde nous attendait sur deux rangs, devant l'école de police. Et puis alors pendant 2 ans, on a travaillé avec eux, mais c'était imposé, quoi. C'est-à-dire, alors on a vu tout le monde, hein, les commissaires, les inspecteurs, je suis allé dans les écoles, j'ai pu faire des trucs intéressants quand même, hein. Passer 8 jours dans un commissariat, etc. Les rondes de nuit, voir un peu, interviewer aussi bien les CRS que, par exemple, les agents de la circulation, etc. Mais il y avait cette espèce de prisme de lecture qui fait que la lecture dominante étant celle qu'elle est, bon, on n'était pas non plus complètement libre de nos observations, mais enfin on a vu des choses. Hein. Alors vous voyez, c'était la violence à l'école vue par ce qui était en train de se mettre en place à l'époque, qui est unique en Europe, le partenariat police-justice-éducation nationale. Ça fait, non pas rigoler, mais ça fait... Mes amis anglo-saxons, Dan Olvius ou les Anglais par exemple, qui sont maintenant avec l'Observatoire de la violence, j'avais rencontré dans les mêmes années, Peter Smith et Len Cowie à Londres, Bon, eux, ils comprennent pas, ils ne comprenaient pas dans aucun pays, en Allemagne ou en Italie ou en Espagne ou même au Brésil, là où j'étais il y a pas longtemps, ils comprennent pas très bien l'histoire de ce partenariat. Pourquoi faire ? Et effectivement, on peut pas le comprendre si on voit pas les trois phases françaises. Première phase avant 88, on ignore la violence. La violence n'existe pas. Alors, on reparle de sanctuarisation. C'est bien gentil, ça, la sanctuarisation, ça m'a toujours... J'avais même été reçu à l'époque par Béroux, quand il a relancé son histoire de sanctuarisation. C'est vrai que la sanctuarisation, bon, pourquoi pas, moi j'aime bien les mots, hein, qui ont du sens. La puissance symbolique du terme. Mais pour qu'il y ait sanctuarisation, il faut qu'il y ait sécurisation mentale, il faut qu'il y ait du collectif, il faut que l'histoire s'enracine dans la subjectivité et dans le groupe, qui est une institution, et effectivement, ça se constate, ça se contrôle. C'est vrai que la sanctuarisation, c'est plutôt un résultat qu'un constat. C'est une construction. Alors, premier temps, ignorer les phénomènes de violence. J'ai dû, y compris à l'université, mais lutter d'arrache-pied pour imposer mon cours violence. Personne n'en voulait. Au rectorat, j'avais des, je vous le cite au passage, parce que j'avais des luttes sévères, c'était la construction de l'UFM aussi. J'étais dans le groupe qui construisait l'UFM de Versailles, on était 12. Ça a été épique pendant 2 ans et demi, 3 ans. Épique. Épique sur des choses comme ça. Par exemple, moi je défendais une théorie assez simple, hein, mais bon, on est d'accord ou pas, maintenant je crois que c'est à peu près admis. Envoyer les enseignants, mais bien encadrés, et sur des terrains bien encadrants, mais dans les lieux les plus difficiles. Un an dans un collège difficile, je pense à Trappes, le collège Gagarine, j'ai suivi 8 ans. Je peux vous dire que 6 mois, 1 an pour certains, ça valait 3 ans ailleurs. Mais il faut être accompagné, il faut un tutorant, il faut un travail d'exploitation des données, il faut de la, on va dire, de l'analyse des pratiques et des situations. Mais on se forme beaucoup plus vite qu'ailleurs. Les meilleures écoles de la violence, ce sont les établissements difficiles. Ça, c'est moi qui le dis, hein. J'ai peut-être tort, mais bon, c'est mon histoire. Alors, ignorer, premier temps, c'est l'ignorance. Le deuxième temps, c'est toute la problématique du signalement, je ne m'attarde pas là-dessus, mais vous le connaissez, bon, c'est à travers le partenariat qui a été très important, ce partenariat, avec les défauts qu'il peut avoir. Le partenariat, par exemple, entre nous soit dit, subjectivement, nous a amené à quoi ? On a tout doucement basculé de la problématique de la violence à la problématique de la délinquance, par exemple. Au début, moi j'étais pour le traitement direct. Je connais très bien Rosenzweig, par exemple, avec qui je travaillais, à Bobigny. Et c'est vrai que le traitement direct, j'ai été pour quand j'ai vu des situations, mais terriblement dramatiques. J'ai vu, ça c'était à la Pompidou, à la Garenne, à Villeneuve-la-Garenne, j'ai vu une malheureuse enseignante enceinte tabassée à coups de batte de baseball, arrêté pendant un an, très grièvement blessé et puis totalement traumatisé à vie. Et ce jour-là, j'ai basculé, là, mais alors, définitivement, hein, du côté de... Il n'y a pas de gants à prendre, il faut travailler avec la police et il faut appliquer la loi. Ce que j'avais vu en Angleterre et ailleurs. Hein, parce qu'ils font pas tellement de sentiments ailleurs. Tout ce qui est de l'ordre du droit commun, c'est du droit commun, point. Alors nous, vous savez, moi j'ai vu des émeutes en vous racontant ce que je vous dis aujourd'hui. Dans les années 80, pour un peu, je me faisais jeter d'une salle comme celle-ci. Préconiser l'arrivée de la police dans les établissements, travailler avec la police, qu'on va trouver au Japon, contexte particulier, où j'étais en 2006, mais dans d'autres endroits aussi. C'est vrai que travailler avec la police, ça passait pas du tout dans les années 80, en France. Et puis d'un seul coup, bascule, paradoxal, c'est presque devenu une nécessité, mais en effaçant justement la problématique prévention. Qui reste en suspens du coup. Alors le traitement direct, c'est très bien aussi, mais ça peut avoir des effets pervers. Toujours est-il que là-dessus, je suis complètement Rosenzweig. Et c'est vrai que le traitement direct fait quand même tomber la récidive d'une manière importante. Le traitement direct, il faut l'appliquer. Hein. Alors moi, je l'ai appliqué dans les lycées et collèges. Le traitement direct, ça veut dire on traite dans les 48 heures le problème, on le règle dans la semaine. Bon, par exemple, avec le collège Clémenceau, que j'ai suivi 8 ans aussi, c'était un Mantes-la-Jolie, quand il a démarré, hein, ouvert en 92, avec un chef d'établissement qui était en sciences de l'éducation, après 4 morts quand même, hein, on va le fourrer. Pas de mystère, 4 morts, dont une policière. Si bien qu'on avait énormément d'argent, il a monté tous les plans de son établissement avec le comité d'architecture qu'il a choisi. Il a choisi tous les profs qu'il a voulu. J'étais avec lui du début jusqu'à la fin, j'y suis resté 8 ans. On a tout fait à peu près ensemble, et par exemple, carte blanche du rectorat, et on a pris les profs qu'on voulait. Parce que, on pouvait, non, mais parce qu'il fallait plus chahuter. Et c'était les profs qu'on voulait, c'est-à-dire les profs qui étaient particulièrement motivés, avec ce qu'on leur imposait, c'est-à-dire, d'abord, il fallait qu'ils soient là plusieurs jours avant, il fallait des contacts, ils venaient de toute la France, il avait choisi une option qui paraissait dangereuse à d'autres, mais qui a été superbe, prendre moyenne d'âge 28 ans. Avec un tout petit état-major de personnes qu'il connaissait autour de lui, à la direction d'intendance, puis après encore un truc un peu marrant, un concierge imam modéré. Vous voyez la crise laïque, terrible. Mais à cette époque-là, il y avait un commissaire de police génial, et les groupes de sécurité qui se réunissaient, je peux vous dire, c'était des vrais réseaux. Et donc le traitement direct, vu du point de vue du chef d'établissement ou de l'établissement, c'est quoi? Il arrive un événement ce matin, à cette heure-ci, 10h49, il est analysé, discuté, débriefé avant midi. Dans l'après-midi, on prend contact, il y avait un médiateur pour ça, ou des personnes, avec la famille, avec les réseaux, c'est réglé avant 5h. À partir du moment où on a appliqué ça, on a fait tomber les violences, mais alors de manière considérable. La deuxième année, tout était à peu près stabilisé. La troisième année, Clémenceau a eu des vitres cassées, c'est tout dans l'année. En plein milieu, à côté de la foire fouille, vous voyez, là, en plein milieu de Mantes. Hein. Donc ça a été une des expériences avec Gagarine aussi, où on a fait des choses tout à fait passionnantes, qui fait que le traitement direct, il faut l'entendre autrement. Hein. Faut l'entendre, c'est de la prévention. Mais de la prévention quand on est sur le terrain. Ça veut dire sur le terrain, prévention, ça veut dire effectivement contact avec les familles, réseau de liens avec les associations, par exemple, de quartier, bien connaître son quartier. Je me souviens dans les prestages qu'on faisait à l'époque, on circulait dans le quartier, à pied, en voiture, autrement, mais à pied aussi. Hein. On pouvait, il n'y avait pas de problème. Et il fallait très précisément savoir alors où était le marché, la seule brasserie de la place, par exemple, puis y aller de temps en temps, et les boulangeries. Et le vendredi, quand il y avait le grand marché, etc. Donc, bon, réinstaller de la vie sociale, réinstaller de la socialisation là où elle doit l'être. Et par exemple, à Gagarine, ça a donné, il y a eu des émeutes à la fin, hein, mais ça a donné dans les quartiers, ce qu'on ne verrait plus aujourd'hui, j'ai vu une fête maghrébine avec la principale du collège dans le quartier, chanter les temps des cerises tout de même, chanter le temps des cerises sur une estrade, au milieu du quartier, accompagnée par les femmes. Maghrébine. Donc c'est intéressant. Enfin, j'aimais bien l'ambiance, moi. J'aimais assez bien l'ambiance parce qu'il y a un phénomène comme ça de déréalisation qu'il faut absolument prendre en compte. Je me souviens avoir été déjeuner une fois cette attrape-là, à côté du commissariat de police, vous savez, qui est au milieu des cités, et la police disait, à l'époque, attrape, toujours d'ailleurs, c'est eux qui nous assiègent. Enfin, c'est nous, c'est eux qui nous tiennent, c'est pas nous qui les tenons. C'est eux qui nous regardent. Alors quand vous alliez manger, il y a une petite brasserie là, arabe, qui s'était ouverte, et vous aviez des élèves ou des gens que vous connaissiez qui vous regardaient stupéfaits. Je me souviens, j'étais avec une prof avec qui on a fait le bouquin de la trappe, et effectivement, totalement stupéfait de l'avoir ici, là, dans ce quartier, manger en plus. Parce que les professeurs, comme chacun sait, ne mangent pas. Enfin, ils ne peuvent pas manger pour un élève, c'est pas possible qu'ils mangent comme moi. Quand je plaisante, là, c'est sur la... Le véritable niveau de déréalisation des choses, c'est-à-dire rentrer dans cette relation de contact qui fait que quand on est en crise, on sait à qui on a affaire, quoi. Alors ça, c'était le deuxième épisode, toute la problématique des signalements. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, c'est pointé dans les attendus de ce séminaire ici. Vous savez ce que ça a donné avec Signa, parce que dans l'intervalle, quand j'ai commencé à m'intéresser, dans les années 80, mes premiers cours, j'avais 30 personnes à Nanterre, 80-85, je suis monté jusqu'à 350, y compris des gens qui venaient de l'extérieur en auditeur libre, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit, puis c'est vrai que j'étais quand même pas mal ferré sur la question, j'avais énormément de relations, avec donc tous les partenaires, plus la MGN, Ornstein par exemple, le premier qui a fait ses enquêtes de victimation des personnels, que vous avez lu sans doute, tout à fait passionnant. Donc Ornstein venait dans les cours, je faisais des trucs avec lui. Mais c'est vrai que c'était cette période de signalement qui a en même temps amené l'intérêt de la télévision, de la médiatisation. Alors là, on dira ce qu'on veut, mais attention, hein. Bonjour les dégâts, c'est vrai qu'incontestablement, il faut faire très attention à la médiatisation. On a d'ailleurs une thèse qui sort dans 3 semaines à Nanterre, là, Mohamed Darmam, chef d'établissement en Seine-Saint-Denis, à Villiers-le-Bel, soutient sa thèse sur la télévision, les grandes chaînes de télévision et la violence à l'école entre 90 et 2006. Et qu'est-ce qu'il montre? C'est que la polarisation, évidemment, on monte en épingle, non plus les analyses progressivement, mais les faits, c'est-à-dire on rentre dans le spot, et deux, on construit, mais alors d'une manière systématique, et on sélectionne les intervenants en fonction de la dimension sécurité-insécurité. C'est-à-dire que dans les années 90, on est 4 ou 5 à s'occuper des problèmes de violence, de Barbieu, de France, et moi, alors de bon, bien avant. Donc on passe à peu près sur les chaînes, les radios, les trucs un peu partout. Et puis une sélection va s'opérer. Et la sélection, elle s'opère en direction de ceux qui parlent non plus de violence, mais de délinquance. Et systématiquement, grâce à la télévision, donc le grossissement des faits fait qu'il y a un rabattement, encore une fois, sur les problématiques de sécurité et les problématiques de délinquance. Au point qu'aujourd'hui, l'Observatoire de la violence est rabattu sur l'Observatoire de la délinquance. Et que de Barbieu est conseiller technique de ce même observatoire. Et au passage, vous avez peut-être vu, j'étais dans une autre thèse à Rennes, Villeurbanne, et dirige là une commission chargée de la mise en place d'un nouvel institut, vous savez, de criminologie, qui ne serait pas universitaire. Et qui serait lié, comme par hasard, à l'Observatoire de la délinquance. Et à d'autres qui travaillent avec lui. Non, ce que je veux dire, c'est que pas de complot, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un complot. Je dis qu'il y a une construction idéologique qui fait qu'on passe à côté des finesses du processus et effectivement du détail des processus. Alors, le troisième épisode, c'est effectivement ignorer, signaler, puis on rentre dans cette problématique de sanctionner. Mais sanctionner, on dirait plutôt punir, quoi, avec cette évolution actuelle où c'est vrai qu'on est tellement centré sur le phénomène, et ça rejoint les chercheurs. On est tellement centré sur les enquêtes de victimation que les recherches sur la violence, je vais vous le dire comme ça, hein, c'était dans la thèse de Mohamed Darmam, elles poussent sur le sentiment d'insécurité. Elles le nourrissent. Les recherches actuelles, à travers cette problématique de la victimation, de la victimologie, renforcent la dimension d'insécurité qui est dans l'opinion. Alors c'est pour ça que j'ai toujours dit, mais bon, à l'époque, hein, il faut, et je suis très content que la police intervienne ici, parce que faut prendre les statistiques de la police, faut aller voir toutes les statistiques, hein, police, justice, mais aussi avoir d'autres sources d'informations, faut aller sur Internet, faut prendre les observatoires indépendants, faut recouper l'ensemble, et faut aller du côté, ce que je vais développer maintenant rapidement, vers la dimension un peu anglo-saxonne des violences. C'est-à-dire les violences que j'appelle, moi, les violences d'attitude. Les, bon, ce que certains ont même appelé, fut un temps, il n'y a pas très longtemps, les violences sans agresseur. Tout ce qui est de l'ordre de l'institutionnel, si vous voulez. Parce que n'oubliez jamais, dans les positions où vous êtes, mais je ne pense pas vous l'apprendre, qu'un établissement, c'est une institution, et ça, à lui seul, indépendamment des personnes, mais compte tenu de l'architecture des groupes présents, ça vous donne une ambiance, ça vous construit un climat. Et ça, si vous voulez, c'est déjà le mot de la fin, parce que le climat, il peut tout changer. Quand je parlerai du Brésil, vous avez vu la guerre qu'il y a eu cet été, une véritable guerre comme au Liban, dans la favela, la Rocinha, la Rio. Bon, ben, je peux vous dire que si vous êtes à côté de Rio, il y a un bouquin qui est paru il y a 2 ans. Il est avec nous maintenant, Benjamin Moignard, « L'école et la rue, fabrique de violence ». Il compare un collège qui est à côté de la Rocinha avec un collège d'Evry. Lequel est le plus violent ? Celui d'Evry, évidemment. Alors, vous n'êtes pas l'air convaincu, là. Et pourquoi il est plus violent? J'ai appelé ça l'effet Durkheim. Quand vous êtes en guerre, s'il y a la guerre à côté, vous avez autre chose à faire que la guerre dans le collège. Ils sont tellement contents d'être dans le collège qu'ils ne bougent plus. Et que vous avez les patrons de la mafia qui viennent vous confier leurs enfants et qui gardent le collège même. Si vous allez à Naples, j'y étais il y a 10 ans dans le quartier espagnol, qui m'a guidé? Quelqu'un de la mafia. Hubert Montagnier, qui était à La Rossigna il y a 5 ans, a été invité par le chef de La Rossigna, qui a été tué l'an dernier d'ailleurs. Et le chef de La Rossigna, qui est une sorte de politique très, très connue, qui a été abattu l'an dernier, lui a ni plus ni moins proposé que d'ouvrir des écoles Montagnier dans le bidonville, avec tout l'argent qu'il voulait, tous les enseignants qu'il voulait. Alors il le fait, il va le faire, ils le font à l'extérieur. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire très attention, on est sur la subjectivité, à ces paradoxes qui font plutôt que, bon, c'est d'ailleurs le titre de son livre, Moignard, il a eu le prix de la recherche 2008, hein, au PUF, L'école et la rue, fabrique de violence. C'est vrai que malheureusement, l'école peut développer la violence, les carrières violentes. Réfléchissons un tout petit peu, ça c'est très américain. Les nouveaux sociologues des bandes américains insistent sur un truc simple. Ils ne vont pas dans les bandes uniquement pour voler. Si vous allez dans les bandes, c'est pour vous réaliser, être reconnu, phénomène aujourd'hui sur lequel tout le monde insiste, la reconnaissance personnelle. Donc avoir une existence, une carrière, comme on dit dans la délinquance, hein, une carrière, une trame sociale, ben vous allez la trouver là. Vos parents déglingués à mort, le milieu déglingué à mort, tout va mal. Et où est-ce que j'existe? Et où est-ce qu'on m'observe? Où est-ce qu'on me parle? Où est-ce qu'on m'aime? Dans la bande. J'ai vu à la fin de l'été le film fait par le journaliste salvadorien, là, vous l'avez peut-être vu, Hola la vida, vous n'avez pas vu ça? Il a été abattu tout de suite après. Le film est sorti l'été dernier. Hein. J'ai travaillé 1 an à l'université de San Salvador. Donc ça se passe dans la banlieue à Soyapango, qui est juste à côté de San Salvador. C'est là que sont nés, j'y étais moi il y a 30 ans, c'est là que sont nées les bandes, les fameuses bandes nord-américaines, les Maras. Vous avez entendu parler des Maras? Bon, la M18 et la Salvatrucha. Bon, ces deux bandes sont nées simples. Dans les années 75, j'étais là-bas. Pourquoi? Tous les hommes partaient travailler aux États-Unis. Pays latino-américain, macho, Amérique latine aussi, mais surtout centro-américains. Les hommes partent travailler, restent les femmes avec leurs enfants. Les enfants mâles, que font-ils? Histoire de bande, je le disais tout à l'heure, à quoi s'identifier? Ben, à eux, entre eux, et la force. Donc ils commencent à monter les bandes dans les années 80. Maintenant, ils sont dans les statistiques internationales, plusieurs centaines de milliers. Avec des devises hallucinantes pour des gens comme nous. Vivre au-delà de 30 ans n'a aucun intérêt. Donc faut vivre vite et avant. Et deux, ne jamais faire confiance à l'adulte, jamais. Aucune confiance dans les adultes. Donc dans le film salvadorien, là vous voyez tranquillement, on voit ces groupes, c'est la M18 qui est filmée, à Soyapango, et tous les quarts d'heure, il y en a un qui est tué. Vous entendez un coup de revolver et on l'enterre le lendemain matin, un garçon, une fille, etc. Bon. Ça c'est la vie quotidienne, alors vous avez ça, et en même temps, ben, dans les écoles, ça va plutôt bien à côté. Toujours la même chose, l'effet Durkheim, ça se passe ailleurs. Donc c'est incomparable. Par exemple, il y a eu un colloque, et il y a un colloque, un autre au Mexique, là, bientôt sur le décrochage, où je serai, mais c'est la première chose que je vais dire. On ne parle pas de la même chose quand on parle de décrochage ici en France et quand on parle de décrochage au Brésil ou en Amérique centrale. On est ailleurs. Là-bas, ce n'est pas le décrochage qui se pose, c'est l'accrochage. Donc faut prismer les choses, faut les analyser finement, hein, et en groupe toujours. Donc résumé de ce que j'ai dit là très vite, le panel des violences est malheureusement aujourd'hui dans l'évolution qu'on a pu connaître est un peu trop rabattu sur la problématique de la délinquance. On perd de vue les définitions, j'y viens. Et puis on est plus que sur la violence, on est sur le sentiment de violence maintenant. On s'est laissé gagner par ce genre de choses, je pense. Alors, définir et comparer, deuxième point. Définir et comparer, j'ai passé donc, comme je vous l'ai dit, pas mal de temps à essayer de m'y retrouver, et je vais donner très vite un éclairage que j'ai construit au fil du temps, que je remanie toujours. J'ai pris une échelle américaine des années 30. Hein. En fait, l'échelle de Boss, BU2S, Arnold, qui a servi à Milgram pour construire, vous savez, ses expériences de perception de la violence, vous savez, les expériences de Milgram. On met il y a un cobaye au fond de la salle, ça a été filmé, hein, vous pouvez le voir, et puis il s'est resté célèbre. Et puis on a un appareillage avec un appariteur qui envoie des chocs électriques à la personne qui est au fond. En fait, il n'y a pas d'électricité. Mais les consignes données par un universitaire ou un responsable de projet, quelqu'un qui a de l'autorité, fait que quand vous dites à quelqu'un d'appuyer sur les manettes parce qu'il répond mal, parce qu'il est à côté de la plaque, eh bien il va le faire et il va dans les trois quarts des pays du monde où ça a été expérimenté, il va dépasser les seuils critiques, y compris malgré l'indication danger de mort. Il va continuer l'expérience, il va suer, il se passe des trucs. J'ai les originaux, hein, 2000 grammes en film, et donc je les ai vus longuement dans mes cours violence. Et c'est vrai qu'on voit des gens qui sont pris dans des conflits terribles, mais du moment qu'ils sont là, ils ont accepté de venir, ils sont pris dans un processus, et il y a quelqu'un qui a autorité sur le système qui leur dit « Vous aviez accepté de le faire, vous êtes là pour le faire, faites-le. » Ils le font. Bon. Ce qui est intéressant dans cette échelle de Boss, elle a servi à 1000 grammes, mais donc on peut la reprendre comme ça. C'est une échelle des années 30, alors je l'adapte comme ça, une échelle de référence des violences, pour voir un peu la subjectivité, on va aller du plus objectif au plus subjectif. Alors on va partir des violences pénales, le premier volet de l'échelle, tout ça c'est sur internet, hein, je vous dirai aussi tout à l'heure, on va partir des violences pénales, alors les violences qu'il appelle physiques directes. Les violences physiques directes, tout le monde connaît, alors vous prenez le code pénal français, pas le dernier mais l'avant-dernier par exemple. Tout le monde sait que l'avant-dernier code pénal français était totalement surcentré sur les violences physiques. Au point que la discussion autour du viol en France, vous le savez, ça a duré un siècle. Il a fallu Halimi, il a fallu et encore, non seulement des discussions mais des manifestations. Et aujourd'hui, bon, on parlait avec quelqu'un tout à l'heure des dom-tom. J'étais il n'y a pas si longtemps dans les dom-tom, je peux vous dire qu'il y a encore des viols qui sont correctionnalisés, ça dépend qui vous êtes, hein. Alors que c'est un crime depuis 1862, je crois. Bon. Donc, violence physique directe, ce sont les atteintes physiques, les coups et blessures, hein. Violence verbale directe, ça c'est dans le code aussi maintenant. Et ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler les violences psychologiques directes, ce que les Américains appellent les atteintes haineuses. Alors le racisme, les harassments, tous les harcèlements, tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on entend développer maintenant dans l'affaire. Pas seulement avec les victimes, hein, mais avec l'ambiance, l'affaire France Télécom, tout ce qui va tourner autour de ça et qui va nous amener tout doucement, c'est très anglo-saxon ça, au deuxième volet des violences. Le premier volet, donc, on est sur les violences pénales, et dans le direct, simplifions, visible ou direct, hein, certains parlent de violences visibles, parce qu'il y a les invisibles, évidemment. Alors passons aux violences, ça c'était le terme de Boss. Les violences indirectes. Vous arrivez à un deuxième volet, c'est une rupture, c'est pas mécanique, hein, ça s'enchaîne pas. Mais les violences physiques indirectes, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'exclusion implicite, du rejet. Je vous prendrai des exemples. Les violences verbales indirectes. Alors vous avez les incivilités, les on-dits, le mépris, l'ignorance sociale, c'est-à-dire où, par exemple, on sait depuis très très longtemps, je crois que Nanterre, on a eu des travaux là-dessus il y a 40 ans, 30-40 ans. Si vous observez une classe une demi-journée, vous allez noter qu'il y a des élèves qui ne seront jamais interrogés. Vous notez aussi que les enseignants interrogent un peu toujours les mêmes. S'ils n'ont pas la technique, ou s'ils ne pensent pas à adopter cette technique de renvoi de la parole ou de sollicitation. Bon, il y a toute une série de cumuls de données subjectives qui font qu'il y a des élèves, vous le savez, qui échappent complètement à la parole. Alors, violence physique indirecte, verbale indirecte, psychologique indirecte. Psychologique indirecte, c'est tout ce qui est de l'ordre de... Oui, je fais beaucoup de bruit. Hein. Alors, ce qu'on peut appeler les atteintes par défaut... Et le refus de reconnaissance. Alors, justement, quand on est, je pense, chef d'établissement responsable d'une institution aujourd'hui, il faut faire très attention, juste au passage, hein, à cette problématique de la reconnaissance. Voilà, il faut lire Honnête, hein, le philosophe allemand de l'école de Francfort, qui a mis ça en avant depuis 10 ans. Ça revient très fort, hein, mais Bourdieu avait pas mal insisté là-dessus, le découvrant lui aussi. Même les chômeurs, même les personnes pauvres, même les gens qui n'existent pratiquement pas, socialement parlant, entre guillemets, il y a une demande de reconnaissance qui fait que c'est par là que ça va commencer. Et vous pouvez avoir ou non une émeute si vous négligez ce type de problématique. Donc ces violences psychologiques indirectes, c'est, vous savez, ces attitudes à la fac où vous pouvez vous amuser. Moi, je m'amusais dans le temps, je ne le fais plus maintenant, mais le professeur qui est capable de vous donner le nom des appariteurs, il y en a combien à votre avis? Il n'y en a pas un sur dix. Pas un sur dix. Pas un sur dix non plus connaît le nom des responsables syndicaux des personnels, ni par exemple des portiers, encore moins du concierge ou du chef de la sécurité à Nanterre, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui a fait des études au Canada et qui a fait des trucs extraordinaires en 15 ans. Tiens, c'est lui qu'il faudrait faire venir, Guinaud. Il a transformé Nanterre d'une façon hallucinante, hein, par la lumière, par l'ouverture des couloirs, mais aussi par une commission de victimation. Il a embauché des gens du quartier qui sont appariteurs et qui sont disséminés parmi les étudiants. Il a fait tout un travail de liaison avec les victimes, y compris donc les résidences étudiantes, etc. Il a fait chuter, mais alors dans des proportions spectaculaires, non pas le trafic de drogue, qui est toujours très important dans le coin, là-bas, à Nanterre, mais les violences, les atteintes contre les personnes, justement. Une politique, oui c'est ça, plutôt d'inspiration canadienne, j'allais dire. Donc voyez qu'avec cette échelle, on peut assez vite et assez bien l'appliquer, la prendre sur le terrain, c'est-à-dire qu'effectivement elle peut nous servir en institution. C'est-à-dire qu'en institution, la consigne c'est ne rien laisser passer. Et je vous dis ça comme ça, tranquillement. Mais rien. Tout ce qui se passe doit être scandé par un commentaire, une attitude, un mot, ça doit être entendu, dit, et on doit savoir que ça se sait. Bon, moi il m'est arrivé d'intervenir, par exemple, c'était à Trappes, ça, pour stabiliser une classe qui allait déjà mal. Si une classe va mal, on le sait le premier mois, vous le savez bien, hein, des fois dans les premières, toutes premières semaines. Déjà au bout de 10 jours, on a une idée. Tout se joue dans les 2 premières semaines. On ne peut pas rattraper grand-chose si on a tout raté au début. Donc si vous n'êtes pas là, sur la brèche, dans le premier mois et demi, avec un, par exemple, une instance spécifique d'observation des classes qui vont pas bien, hein. Pas très compliqué ça. Et puis des réponses et des interventions dans la classe avec les profs. Et par exemple en lien avec les parents, en allant les voir. Bon ben c'est vrai que ça, je parle d'exemple, hein, que j'ai eu à pratiquer. On peut stabiliser une classe. Et je pense à une classe qu'on a stabilisée très vite, avant Noël, à Trappes. Et le paradoxe, c'est qu'elle était tellement suivie cette classe après parce qu'on l'observait, on allait voir un peu ce qui se passait, on faisait des enquêtes, qu'à la fin de l'année, on a demandé aux élèves s'ils voulaient être ensemble dans la classe supérieure, ils ont dit non. C'est eux qui ont demandé à être dans des classes différentes, parce qu'ils en avaient trop marre, eux aussi, d'être observés tout le temps, d'être sous le collimateur comme ça de la classe qui allait mal et qui était devenue une classe plutôt pas mal. Là aussi, c'est... Alors, ça donne effectivement une vision de la violence que je vais vous indiquer comme ça très très vite. La violence à l'école, c'est quoi? Bon, la racine étymologique, hein, vous le savez, c'est vis, veillesse, sanskrit, ça c'est le latin. En sanskrit, c'est is, is, c'est tout simplement la force. Donc la définition sur laquelle, à propos de la violence, tout le monde s'accorde, c'est l'usage de la force. Mais vous voyez déjà que c'est ambigu aussi, parce que l'usage de quelle force? La force d'une personne, la force physique, la force musculaire, la force à plusieurs, la force psychologique, la manipulation, enfin bon. Mais c'est vrai qu'étymologiquement, on le voit bien chez Freud, dans sa différence agressivité, agression justement et violence, on voit bien que l'usage de la force, c'est plutôt musculaire, quoi. C'était considéré comme très naturel. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mes cours violence, par exemple, les enseignants de maternelle, mais surtout les hommes, hein, ou les pères de famille, vous affirmaient tranquillement qu'un enfant, un petit enfant, bon, il se battait, c'était normal, entre eux, ils se mordaient. Vous savez, la morsure. J'ai un de mes amis psychanalystes qui a porté plainte parce que sa fille a été mordue. Mais ça a fait un débat extraordinaire, qui a duré 3 mois. C'était à Strasbourg. Et c'est vrai que, oui, la morsure, c'est une violence. Ça se travaille, on analyse. On peut parler, y compris au tout petit. Il y a des choses à prévenir, à mettre en place. Et donc, bon, quand on est dans cette dimension-là, de définition de la violence, on va, comme vous le voyez, l'usage de la force, on va aller beaucoup plus loin. On va aller, par exemple, vers des définitions, je vais en donner deux seulement. Hein. La violence, comme ça, c'est Richard Elbrun, de Strasbourg, justement, avec qui le copain psychanalyste Martin est de là-bas aussi. C'était notre groupe violence de l'époque. Pathologie de l'agressivité. C'est vrai que si on prend l'agressivité comme quelque chose comme de spécifique, de stimulant, qui fonctionne dans la relation, l'assertivité, on peut dire. L'assertivité, la décision, maintenant, on dit. C'est-à-dire que maintenant, il y a des pédagogies de la décision, de l'assertivité. Ça se travaille pour les chefs d'établissement, ça, par exemple. Et c'est vrai que tout ça, ça s'articule autour de cette dimension. De cette dimension-là où l'agression, c'est quelque chose qui permet de tenir debout, quoi, tout simplement. D'ailleurs, faites de l'étymologie, moi j'aime beaucoup, agrédire. Agression, ça vient de agrédire, ça ne veut jamais dire que marcher à la rencontre de, aller vers quelqu'un, vers quelque chose. Donc prendre contact, agrédire, c'est ça. Il n'y a jamais de connotation dans les mots au début quand ils existent. C'est l'histoire qui porte la connotation. Alors, cette échelle de violence que je vous ai soumise très rapidement m'a permis, et je l'ai inventée, celle-là en lien étroit quand même, d'approfondir, et ça m'a permis de comprendre la dimension anglo-saxonne des processus. C'est vrai que dans ces mêmes années 90, la première fois que j'ai débarqué par exemple à Londres et que j'ai rencontré Peter Smith et Len Cowie, j'avais été étonné par une petite chose. À quel point la France était isolée dans sa lecture de la violence. Il a fallu attendre 96, je crois, pour qu'il y ait un colloque à Londres avec deux représentants du ministère français. 96. En 90-92, il y avait une liste internationale de 52 noms de spécialistes de la violence en Europe qui étaient sur Internet. Que des Anglais, des Américains et des Hollandais, quelques Allemands, Italiens et Espagnols. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu des grandes discussions avec eux, parce que de quoi je m'étais aperçu, c'est que la ligne de travail de la violence à l'école, c'était donc États-Unis, pays anglo-saxons, enfin Angleterre surtout, et vous redescendiez, vous passiez par la Hollande, la Belgique flamande, la Suisse allemande, l'Italie, et ça contournait complètement la France. L'Hexagone totalement fermé sur lui-même. À l'époque, 90-91, on était deux à connaître Dan Nolveus en France, Paul Durning et moi. Et l'avoir lu en anglais. Personne ne connaissait Dan Nolveus, qui a quand même écrit des livres et des traités donc sur la violence à l'école, qui a mis au point un protocole assez cher, malheureusement, d'intervention, mais très intéressant, d'intervention partenariale dans les établissements scolaires, qui a fonctionné, mais à l'échelle de, par exemple, toute l'Écosse pendant plus de 10 ans. Et quand j'ai rencontré Nolveus, je l'ai retrouvé plus tard. Par exemple, en 2006, quand j'étais au Japon, ils connaissent Dan Nolveus et l'Observatoire de la violence en partie. Mais Nolveus est connu aux États-Unis, il a eu plusieurs prix ces 10 dernières années sur les recherches de la violence, au Japon, dans les pays que je vous ai indiqués, mais pas en France. La France très très centrée sur elle-même, quoi, ce qui était un peu dit ce matin par Langouette, là, à l'étage du tout en bas, sur l'évolution du système éducatif. Quoi. C'est-à-dire que nous, on a un nombrilisme, je l'ai découvert moi-même, hallucinant. Hallucinant. Alors ça donne quoi? Ça m'a amené à pousser l'analyse jusqu'à un point simple. Qu'est-ce que va être la violence? Comme le dit Peter Smith dans une de ses définitions, la violence, il dit finalement, si on la prend au sens institutionnel, c'est tout ce qui participe de l'abus. L'abus, abuse en anglais, est abuse and neglect, hein, c'est par défaut, par négligence, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas occupé d'une classe, on l'a oublié. Ou il y a des élèves auxquels on ne s'intéresse pas, ce que dit Langouette, quoi. C'est vrai que, bon, à nouveau, depuis ce que dit Langouette, ce que disait ce matin, c'est que depuis 10 ans, on a accepté que les élèves en grand échec, enfin, on a en partie accepté de plus s'en occuper. Il faut le dire comme ça. Bon. Alors, évidemment, ils sont pas malades non plus, ces élèves en grand échec, et ils ont un narcissisme, comme on dit. Et puisqu'ils ont un narcissisme, il y a des moments où ça peut les énerver un peu. Et eux ou d'autres peuvent participer à des événements qu'on ne va plus contrôler. Alors, je disais, et je vais vous le donner comme tel, cette définition de la violence par l'abus, abuse, tout ce qui est abus. C'est repris par Villeurbanne, par exemple, de la manière suivante. Hein. En 1997, on a beaucoup travaillé, Villeurbanne et moi, pour traduire des bouquins, enfin, etc., sur la violence. Abus réitérés. Vous allez voir jusqu'où vont les anglo-saxons, où on peut aller quand on est, je pense, institutionnel, on peut aller jusque-là. Abus réitérés de titres, de fonctions et de genre, de classe d'âge ou de sa force. Il reprend la définition étymologique, hein, mais élargi. Abus réitérés de titres, de fonctions et de genre, de classe d'âge, de sa force. C'est toutes ces formes d'abus qui minent le territoire institutionnel, qui minent la dimension psychologique des relations violentes et qui les installent et qui donnent les phénomènes télécom, par exemple, indiscutablement institutions violentes. Mais il faut que vous sachiez, vous le savez sans doute, c'est paru qu'une fois, hein, mais dans, quand on parlait beaucoup de télécom, c'est pas chez télécom qu'on se suicide le plus. Hein. Vous savez où c'est ? Chez nous. C'est-à-dire qu'on est 3 ou 4 en avance sur... on a 3 ou 4 points d'avance sur télécom, l'enseignement. Oui, y compris, surprise, l'enseignement supérieur. Et puis derrière, il y a la fonction publique et en particulier les hôpitaux. Mais ça, vous ne l'avez pas vu souvent. Il y a une statistique qui est parue il y a 2 mois. Donc télécom était à 32, 30, je ne sais plus combien. Et nous, on était à 36, 37. Bon, ça c'est ce que... On ne peut pas comprendre le phénomène des violences si on ne veut pas chercher... Du côté de cette échelle, on va dire, à dimension psychologique, parce que, alors, il faut lire Lehmann, Heinz Lehmann, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un bouquin de 96, traduit en 96, hein. Mais c'est pareil, ça fait 30 ans qu'il bosse avec des enquêtes, on est des petits rigolos côté nous. C'est comme Dan Olweus, Heinz Lehmann, il a fait des enquêtes sur 10, 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Ils ont fait des enquêtes nationales, en Suède, en Norvège, dans l'ensemble des pays... je vais dire, qui sont dans cette mouvance là que j'ai indiqué tout à l'heure, jusqu'à l'Allemagne, sur ce qu'ils appellent la psychoterreur, par exemple. Bon, vous cherchez dans le... Il y a un site Lehmann sur Internet, hein, il y a 28 agissements que vous pouvez reprendre. Très clairement, je les ai là, mais je ne m'attarde pas là-dessus, parce que le temps passe. Mais c'est vrai que la psychoterreur, c'est quelque chose qu'on peut travailler aisément. Et qui permet, en particulier, dans les attitudes, d'avoir une police des attitudes... Une police des politesses, je vais le dire comme ça, qui fait que l'infrastructure des relations va être en place dans l'établissement. Comment on se parle, qu'est-ce qu'on se dit? Qui dit bonjour à qui? Je vous disais tout à l'heure, il m'est arrivé de devoir d'aller à des entrées, j'arrive tôt le matin, moi, en général, je regarde comment les gens rentrent. Il y a eu des tas d'endroits et des tas d'époques où, vous savez, les enseignants rentrent, mais la tête baissée très vite, traversent la cour le plus vite possible et filent dans la salle des profs, dont ils ne ressortent pas. Et par exemple, à Jean Villard, c'était au Mureau quelques années plus tard, j'ai eu une discussion épique avec la responsable médecine scolaire du rectorat. Le recteur était plutôt de mon avis, mais elle ne voulait pas. Une fille se défenestre du deuxième étage. Faut-il en parler ou pas? Quoi faire? Sur le coup, rien. Fallait surtout pas en parler, fallait pas le faire savoir. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que tous les gamins, évidemment, ça a commencé, les parents, etc. Donc, on organise une situation de crise comment? Les temps de parole, qu'est-ce qu'on dit? Et puis le dire, mais alors là, comment on va le dire? Mais ne pas le dire, c'est une erreur. C'est toujours une erreur. Ça, maintenant, j'en suis sûr, et depuis toujours, parce que c'est vrai que... Par contre, il faut savoir mettre des mots là-dessus. Et donc, la discussion a donné, par exemple, des actions tout à fait intéressantes. Les enseignants ont été associés à la gestion de l'établissement, et pendant une période de 3 semaines à mois, ils descendaient dans les cours de récréation. Certains arrivaient plus tôt, étaient à l'accueil avec le chef d'établissement. On parle, on les interpelle, on circule... On développe des choses comme ça. J'ai pu, dans un lycée professionnel, là c'était au Blanc-Ménil, avoir des actions de cet ordre dans un rayon de 100 mètres autour de l'établissement, jusque chez les petits commerçants ou les concierges du quartier, pour contrôler le réseau et l'ambiance du réseau. Ça paye toujours. Et c'est pas très compliqué. Alors je continue. Je vais vite, hein, mais tout ça est sur Internet, je vous donnerai des références après. Où est-ce que j'ai mis ma petite feuille? Ici. Alors, je voulais prendre quelques vignettes maintenant pour un peu illustrer ce que je dis de l'usage de la force, de l'abus et des différents visages de la violence aussi, de la manière dont on peut entendre la violence. Alors, je vous prends Bon, la France, j'en ai parlé, vous le connaissez. On est quand même encore très ciblé sur l'atteinte contre les personnes, les atteintes graves. Mais vous voyez, quand on dit ça, tout ce qu'on dit pas. Moi, j'ai connu une enseignante à la retraite, j'ai connu à la retraite d'ailleurs. Stage avec Maryse Vaillant à la PJJ, j'ai beaucoup bossé avec la PJJ. Travaillant avec la PJJ, stage violence, 3 jours. Une enseignante à la retraite est là, une grande belle femme, un peu comme ça, elle avait quelque chose à dire, on ne sait pas quoi. Et finalement, ce qu'elle avait à dire, c'est que 6 mois avant la retraite, elle arrive dans une de ses classes où il y avait un groupe particulièrement menaçant ou problématique qui se mettait toujours au premier rang. Et un matin, elle arrive, elle rentre, elle s'assied et avait un sexe, un pénis et une belle paire de couilles énormes sur son bureau, dessinée. Donc elle arrive, elle voit ça et elle reste, mais paralysée. Ça lui reste en travers de la gorge, dira quelqu'un. Et ça sera même pas drôle. Et donc elle nous raconte ça, et en fait elle a été complètement paralysée, elle n'a pas pu faire son cours, elle a dû quitter la salle, elle a été chercher le chef d'établissement, elle est partie, puis ça a été un malaise permanent, et donc elle a fini, elle est partie à la retraite avec ça, et sans jamais avoir pu ni le parler vraiment, ni l'analyser, ni le passer, ni etc. Donc avec Maryse Vaillant, on a passé tout un temps à comprendre ce qui s'était joué, et surtout à faire qu'elle en parle. Mais par exemple ça, vous voyez, c'est pas dans les... Enfin, si, on peut considérer comme une atteinte, si, une atteinte grave, non verbale, mais intentionnelle, on peut argumenter, hein, à partir du code pénal. C'est vrai, on pourrait. Donc voilà une situation, mais c'était typique de beaucoup de situations que j'ai pu connaître, hein, en France, alors c'est un peu différent maintenant, mais qui fait qu'on est sensible aux faits. Et on ne travaille pas toujours sur cette prévention des trois codes, hein, comme le dit notre ami toujours Villerbu, là, ce qu'il appelle les trois codes, hein, je le dis au passage, ça, parce que c'est important dans un établissement, la loi, le code de la loi. La loi s'impose, dit-il. Ça, moi, je pense qu'il faut travailler avec le code pénal pas très loin. Hein. Moi, je faisais des interventions avec le nouveau code pénal près de moi. Quand la PJJ a monté 13-18 questions de justice, j'étais là. Là, il y a une deuxième série qui est sortie sur les 8-13 ans, là, 9-13 ans. Donc c'est vrai que tout ce travail est important, il faut travailler la loi. La loi s'impose. Ça, c'est le premier code. Le deuxième code, c'est le règlement intérieur, d'où l'intérêt. Le règlement intérieur se propose, il se discute, bien sûr, mais il s'entérine de manière démocratique. Et par exemple, c'est à Trappes, oui, on a mis 2 ans pour refaire le carnet de correspondance, et le carnet de correspondance était relativement simple. Le règlement intérieur, c'est une chose, mais on l'avait résumé en quelques lignes, et en particulier, vous aviez la première page, le lycée, c'était le collège, Gagarine, vous ouvriez, et vous avez un mot en gros, respect. Un seul mot. J'avais essayé, et j'y arrivais assez bien, à partir de ce mot-là, vous trouvez tout le reste. Vous arrivez, vous écrivez là, en gros, respect. Ça s'impose à n'importe quelle collectivité. Les petits, les grands, au Brésil, au Japon. On a 3 heures à passer ensemble, voilà. Comment on va faire? Alors on définit vite quelques règles. On arrête à midi et demi, en attendant, respect, on fait quoi? On est d'accord avec ça, alors bon. Et le reste, ça vient, c'est à vous. C'est plus compliqué du point de vue, on va dire, lacanien. C'est que c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'interdit en pédagogie, psychothérapie institutionnelle. L'interdit, en 2 mots, l'interdire. Mais l'interdit, c'est ça. C'est l'histoire, pas tomber dans l'effet durkheimien, quoi. Bon, évitez la guerre. Évitez la guerre. On a 3 heures à passer ensemble. Donc, vous imaginerez que dans nos interventions, on part d'hypothèses, non pas pessimistes, mais hyper réalistes, nous. On part pas de la paix, on part de la guerre. Hein. Ça veut dire, effectivement, si je continue là très vite mes petites vignettes, vous l'avez vu, la question du bullying. Bullying, c'est, je le dis au passage, en Angleterre, le bullying, ça m'a occupé longtemps. Hein. Je reviens sur ce mot. Le plus proche de la traduction, ça serait brimade ou intimidation. Mais brimade, intimidation, ça dit rien à nos élèves. J'ai fait une enquête complémentaire, c'était en 95-96, dans la région, dans le Val d'Oise, auprès des élèves 8-12 ans. Qu'est-ce que, alors la violence, tout le monde connaît le terme, brimade. Intimidation, vous voyez pas. Donc le terme français est très difficile. Et ce que je vais dire là est important, j'ai eu cette discussion avec Dan Olveus il y a donc un moment. Dan Olvus m'a étalé au tableau, j'étais avec lui, on était tous les deux, comme j'allais traduire son bouquin. Et il va au tableau, il me fait un rond et un rond à l'intérieur du rond, enfin deux cercles. Il me dit, voilà, le problème, c'est un problème de langue déjà. Parce que nous, bullying, quand on dit bullying, c'est quand ils disent bullying, à l'école, c'est pas ce qu'on appelle violence. Moi, je disais violence à l'école, ils ne comprenaient pas en Angleterre. Hein. Ils ne comprenaient pas. La violence, on va simplifier, criminaux, police, justice, terminée. Ça, les Anglais, ils n'ont pas de souci. Il y a un élève qui a une arme blanche, police terminée, hein, il y a longtemps. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher autre chose. Hein. Tandis que bullying, c'est tout ce que j'ai appelé là mon volet, vous savez, de intimidation, relations difficiles, harcèlement, mépris, manque de civilité, enfin tout ce qui tourne pas rond, quoi. Pression. Et Olvus me fait donc ce dessin et il me dit voilà, en anglais c'est vrai, c'est assez parlant, je crois que j'ai repris dans le bouquin. Aggression, en anglais, ça inclut une petite partie. Dans aggression, vous avez une petite partie qui sera violence. Tandis que notre terme à nous, violence, il englobe une partie qui est agression, c'est l'inverse. Donc il y a un jeu conceptuel et de traduction qui fait que quand on parle violence, pour les anglo-saxons, on parle de quelque chose qui est pas à l'école. Et que nous, comme je l'ai dit au début, parlant violence plutôt que d'autres choses ou de bullying, on va se mettre à parler de victimation et on va se mettre à parler de violence criminologique. On va être dans la criminoclinique. À preuve, alors si vous allez, moi je suis allé au Japon, j'ai été 3 fois au Brésil, en Guyane, en Amérique centrale et ailleurs, au Chili, ils parlent tous de bullying. J'étais avec un groupe d'adolescents de 15-16 ans à Joe Pessoa cet été, à l'école du petit Joseph. Bon, bah, eux, tout de suite, ils m'ont posé des questions. J'étais un spécialiste du bullying, paraît-il, me disent-ils, et ils me posent des questions. Mais ils avaient le terme bullying. Jamais ils ont dit violence. Jamais. Donc ça, c'est on pourrait dire une petite vignette anglo-saxonne. Bullying, c'est quelque chose qui a à voir avec mobbing, vous connaissez le terme. Ça vient de Lawrence. Hein. Le mobbing, c'est la même chose, mais chez les animaux. Et on l'a repris pour les entreprises. C'est la pression, l'affolement, la masse. Ce que disait aussi Langouette tout à l'heure, c'est sûr que si le tourisme se développe et vous avez des toutes petites plages, vous avez une massification. Parce que lui, il récuse le terme de massification à l'école. La massification, elle dépend de ce que vous mettez dans quoi. Si les écoles sont là, s'il n'y a pas de massification. Donc c'est un peu la massification, le mobbing. Alors l'équivalent du mobbing, c'est le bullying à l'école. Donc c'est à l'école que ça se passe, ce bullying. Alors aujourd'hui, c'est le terme international avéré. C'est-à-dire que c'est vrai que la culture anglo-saxonne a nettement pris le dessus. Alors au Japon, si vous regardez les différentes violences, hein, je vous cite quand même un petit exemple japonais qui m'a frappé. 2006, j'arrive, campagne ministérielle. Alors le Japon, très difficile de contact. Hein. Bon, peut-être certains d'entre vous connaissent. Pourtant, j'ai été invité par des Japonais, je connais pas mal de Japonais, bon. Mais très difficile de contact et parler des problèmes du Japon avec un Japonais, c'est encore plus difficile. Donc il y avait une campagne de télévision pour la première fois, parce qu'ils n'avaient jamais osé le faire avant, sur un syndrome qu'on connaît en France. Hein. Tout ce que je vais vous dire, revenu en France, je me suis aperçu qu'on n'en était pas très loin. Ça s'appelle au Japon Hikikomori. Hikikomori, c'est ces enfants, vous savez, qui humiliés par l'école, sur des mauvaises notes ou des réflexions. Rentrent chez eux, s'enferment dans leur chambre et n'en sortent plus. De 6 mois à 3 ans, quand même. Nourris par leurs parents. Et donc c'est un phénomène énorme au Japon. Donc il y a eu une campagne nationale à la télévision pour intervenir. Y compris le seul psychiatre traduit en France, qui est déjà venu en France, Bin, dit lui que bon, on est dans un cas de schizophrénie, quoi. Mais de schizophrénie, j'allais dire, institutionnelle. C'est-à-dire c'est produit par l'école japonaise. Donc j'ai vu à la télévision des spots et une campagne pour appeler les professeurs à ne plus blâmer les élèves qui n'étaient pas bons en classe. À cesser de mettre en relief l'échec. À cesser de dénoncer l'échec à l'école. Et bon, il s'est passé des petites choses dans mes pérégrinations. J'ai fini par pénétrer un peu le milieu, mais ça a été difficile. Hein. J'apprenais plus de choses sur Internet qu'avec eux au début. Ils ne voulaient pas en parler, honteux. Pendant que j'y étais, une mère, par exemple, achetait un de ses enfants du parapet d'un pont parce qu'il avait raté son école. un autre enfant est rentré chez enfin, un autre enfant, un adolescent est rentré chez lui, son père médecin, très violent avec lui parce qu'il avait de très mauvaises notes. Le père part travailler, parce qu'ils sont toujours... Alors le travail là-bas c'est quelque chose, y compris les élèves, hein. Vous le savez, jusqu'à 8h du soir, hein. Dans les djoukou, ils finissent l'école, ils en commencent une autre. Donc tout le monde au travail sans arrêt, et le père repart, l'adolescent qui n'en peut plus, tout le monde va se coucher, il ne va pas se coucher, il met le feu, et il brûle dans l'incendie sa mère et sa sœur, à Osaka, 2006. Donc ça, ça faisait la une quand même. Mais rare, on en parle peu. Et donc ce phénomène d'Ikikomori, c'est le phénomène de... C'est le bouquin de Merle, hein, qui est paru chez l'Harmattan, c'est l'élève humilié, quoi. C'est ce que je disais au bout de mon échelle sur la question de la reconnaissance. Même quand on est nul, même quand on va mal, même quand rien ne vous arrive, il y a un mot, une attitude, quelque chose, il faut mettre en place un soutien minimum, parce que c'est vrai que ça peut beaucoup bouger. Là, j'ai l'exemple, moi, mais je ne m'attarde pas là-dessus, hein, d'élèves qui, sur 6 mois de temps, peuvent bouger beaucoup sur une réflexion très très simple. Vous savez, un élève qui a toujours des notes absolument scandaleuses, là c'est encore les mureaux, il a 3, 4, 5, 6, les profs n'en peuvent plus, et puis il fait un progrès, il doit avoir, je ne sais plus, c'était 1,5 ou 2 de plus, en français je crois que c'était. Alors, de deux choses l'une, vous avez la réflexion, oh c'est un miracle, il a gagné 2 points, c'est un miracle, alors l'autre il n'en peut plus, bon. Et puis, un peu plus intelligent quand même. Bravo, on tient à souligner, là, je tiens à souligner son progrès. Il s'est passé quelque chose, je suis prêt à t'aider, il faut qu'on l'aide. Ça y est, il a décollé. Ça dépend comment vous présentez les choses, vous le savez bien. Donc si vous dites ça d'une certaine façon ou d'une autre, vous radicalisez une ambiance, et en particulier, vous fabriquez votre propre destruction. C'est ce qu'il faut dire à nos enseignants. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, ce n'était pas le cas il y a 25 ans, quand le ministère a commencé à demander à faire attention aux bulletins. J'ai eu des analyses de contenu de bulletins qu'on m'a demandé de faire, moi, hein, dans les années 80, mais des trucs abominables, qu'on ne verrait plus aujourd'hui, quoi. Et heureusement qu'il y a ce contrôle. Parce que tout un chacun, vous et moi, ce n'est pas pour incriminer. Les gens ne sont pas plus... ni plus vicieux, ni plus violents que d'autres. Mais quelqu'un qui ne réussit pas à l'école, ou qui croit qu'il ne réussit pas, je parle des profs, ou des professionnels. Quand on pense qu'on ne réussit pas, on est humilié aussi. Donc on peut dire des choses redoutables quand on n'est pas bien. Si on n'est pas un tout petit peu plastique, un tout petit peu comme ça, décrispé, on va pouvoir radicaliser, et surtout, radicaliser les choses, mais surtout, utiliser un mécanisme de défense bien connu, c'est-à-dire le découpage de situation, hein, l'isolation, c'est-à-dire, bon, ceux-là, ils n'ont rien à voir avec moi, quoi. Je ne suis pas fait pour eux. Et ils ne sont pas faits pour moi. Donc, simple, c'est le beurre à bas, ça. C'est de la violence, d'ailleurs. La violence, elle est binaire, toujours. Hein. Les perceptions de la violence, elles sont que binaires. C'est bien ou mal, oui ou non. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'échelle. Alors ça, c'est le Japon. Alors, l'ikikomori, la surcharge scolaire du Japon, vous savez, l'apprentissage par cœur, je ne sais pas si on est si loin que ça. Les djoukous, le samedi, ils sont à l'école. Ils ont à peine le dimanche matin. Les parents, c'est pareil. Hein. Donc il y a une atmosphère, ce qui explique. Hein, moi, je connais mieux maintenant. Il y a encore des Japonais qui sont venus l'an dernier, qui sont restés à la fac de Nanterre un an, là. Ils sont complètement trash, les jeunes. Et vous dites, mais c'est pas possible, parce que vous avez d'un côté quelque chose. Ils sont au 15e siècle, et de l'autre, vous avez les tout jeunes, là, qui sont dans des dérives. Les cheveux de toutes les couleurs, affolant les autres Japonais, évidemment, mais qui sont dans une dérive trash, qui est la seule manière qu'ils ont probablement, ne pouvant pas prendre leur distance à l'égard du Japon, ils le cassent. Mécanisme aussi fondamental dans les questions de violence, c'est-à-dire que ce qu'on n'appréhende pas, on casse, ou on s'en éloigne, mais il faut s'en séparer. Alors, le Brésil, un petit passage par le Brésil, mais c'est vrai que, je vous en ai parlé, hein. Moignard montre bien des témoignages de paradoxaux, parce que ça a pu vous choquer ce que je vous ai dit, mais c'est vrai que dans la violence qu'il y a, ou même en Guyane, hein, parce que Guyane c'est un peu pareil, dans la violence qu'il peut y avoir dans la situation sociale du pays, bon, tout est radicalisé à l'école, et par exemple en Guyane il y a des... Il y a une ambiance, il y a par exemple, j'étais à Patou sur le fleuve quelques jours, Et j'étais étonné de cette ambiance de calme. Alors pour le coup, il y avait presque une sanctuarisation de cette ambiance dans les écoles. Je suis arrivé entre deux dans la matinée, le premier matin, on débarque, je me promène, et j'entendais, vous savez, les voix à travers les écoles primaires, là, et le collège qui était plus loin, on entendait un certain nombre de choses, on se serait cru, on aurait pu se croire, près de Lyon, près de Paris, ou dans le Nord. Et à la récréation, vous avez entre 50 et 60 dialectes ou langues. Et puis quand vous êtes avec les Amérindiens, on n'est pas avec les Bushinengués. Les Bushinengués, c'est une société matrilinéaire. C'est pas la peine d'aller chercher la responsabilité du père. D'ailleurs, le chef d'établissement, le principal avec qui j'ai passé toute une après-midi, m'expliquait qu'il avait trouvé une combine. Il paye les pirogues, donc deux fois par semaine, il paye la pirogue. Et ce sont les maires, il a sollicité les maires. Et donc, il y a un conseil des maires. Les conseils, c'est les maires. Et elles viennent. Bon, et c'est vrai que ça tourne. Et c'est vrai que du coup, il y a... Alors, vous voyez ce que ça veut dire culturellement parlant. Les violences, elles vont se déplacer sur autre chose. Elles vont se déplacer sur les Amérindiens, je crois que c'est un bachelier en 10 ans. Et puis, elles vont se déplacer sur... Vous arrivez devant l'école primaire, à la rentrée, début d'après-midi, et vous avez une fille de CM2 qui est enceinte. Et vous savez, on vous dit, oh oui, parce que à la mairie, ils sont en train d'être... Bon, il y a deux gendarmes pour 3000 habitants. Et donc, vous voyez, les violences, elles sont ailleurs. Mais elles tiennent tout. Le trafic de drogue sur le fleuve, le sous-préfet qui me dit à Saint-Laurent, en conférence, on est en conférence, il me dit, le fleuve, je ne sais pas si vous connaissez, hein, il fait 5 km de large. Bon, on expulse 20 personnes dans la journée, il en rentre 40 la nuit. Quand ils ont compris le système, ils s'inscrivent dans deux endroits différents, sous des noms différents. Par exemple, ils prennent deux prénoms existants, et puis bon, comme on est dans le système français, ce qui est tout à notre gloire, hein, il y a une prise en charge scolaire, etc., tout un tas de trucs qui jouent. Et donc, évidemment, ils passent du Suriname, ils arrivent tous, autant que faire se peut, de notre côté. Alors, c'est vrai que la Guyane, ça m'a beaucoup frappé, mais le Brésil, on ouvrirait des écoles, ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas de décrochage, ils accrochent, ils sont là, ils sont présents. C'est-à-dire qu'effectivement, dans d'autres conditions. Et la violence, par exemple, quand vous parlez de violence avec les enseignants, je vais vous dire, ils n'ont pas peur pour la raison simple, c'est que d'abord, quand vous sortez d'ici, au Brésil, vous ne serez pas seul, une femme encore moins. Quand vous êtes en voiture et dès que la nuit tombe, vous passez tout droit au feu rouge. Et puis la nuit, vous circulez à plusieurs ou en groupe. Et puis vous n'allez pas n'importe où, il faut connaître quelqu'un. Et les quelqu'un que vous connaissez, c'est que Moignard raconte, c'est comme ça qu'il est rentré dans la favela, Moignard. Bon, bah, c'est les gens des bandes. Et quand vous êtes en lien avec les bandes, vous pouvez faire vos enquêtes, on vous laisse enseigner. Au contraire, on vous demande d'enseigner. On vous dit, ils disent là-bas, fais ton travail, on fait le nôtre, quoi. En gros. Donc vous êtes dans une toute autre ambiance, c'est-à-dire que donc nous, notre problématique, respectable, au demeurant, elle est totalement prise dans ce prisme, encore une fois j'insiste, hein, qui à mon avis va imploser, hexagonal. Donc je prépare un petit livre, là, j'ai 12 articles, j'ai fait dans mes déplacements ces 5 dernières années, sur l'éducation contre la mondialisation. Alors je vais finir par ça, et puis par permanence variation, mais à travers ça. Je crois que la mondialisation, bon, je suis pas totalement négatif là-dessus. Ça a l'intérêt que je vous ai indiqué. Le mélange des genres, on va dire ça comme ça. Une statistique internationale, je crois que c'est l'OCDE. 2050 en Europe, hein, une personne sur deux ne sera pas originaire du pays où elle vit. C'est insidieux, mais on le voit. Enfin, si vous vivez en Seine-Saint-Denis, vous avez compris assez rapidement. D'ailleurs, si vous vivez en Seine-Saint-Denis, vous comprenez mieux la Guyane. C'est sûr. Et puis, bon, mais par exemple, moi, ma famille est Mâcon-Lyon, enfin bon, ma mère du côté d'Autun, bon, j'étais à Autun il n'y a pas longtemps, voilà qu'il y avait des Albanais dans le patelin où habite ma sœur, là, Chissé en Morvan, des Albanais qui attendaient le bus. Alors ça, tout le monde sidérait, des Albanais là, alors là, non, impossible. C'était pas possible, c'était inimaginable, tout le monde racontait ce truc, là, on a vu des Albanais. Vous avez vu des Albanais. C'est un peu comme mon voisin du Nord, je suis dans le Nord maintenant. Je lui ai présenté, malement pris, un couple de Colombiens, d'universitaires. Hein. Ils étaient avec moi à la maison, et puis on va boire un coup chez lui, puis je lui présente comme il les regarde et dit « Oh, qu'est-ce qu'ils sont indiens !» Et puis ils ne pouvaient plus s'arrêter, quoi. « Ah, ils sont typés, hein, ils sont drôlement typés !» Alors les deux universitaires étaient debout devant la table, je ne savais plus quoi faire, ma femme était verte, et ils ne sont jamais revenus, je me suis excusé pendant une heure, mais ils étaient « Qu'est-ce qu'ils sont typés ?» C'est comme dans les films, non, le voisin, infernal, infernal. Alors vous voyez, les permanences et la variation, quoi, hein. C'est le même qui me dit, d'ailleurs, je l'aime bien. Hein. Moi, j'aime pas les Arabes. Enfin, il y en a deux, trois qui travaillent avec moi, mais bon, c'est pas des Arabes, hein, je travaille. Bon, c'est à peu près le même. C'est ce qu'on appelle en ethnométhodologie l'indexicalité. L'indexicalité, alors, dans les situations de violence, c'est ça qui compte. Faut jamais prendre les faits. C'est pour ça, méfions-nous de tout ce qui circule, là. Moi, je demande à voir tout le temps, et j'ai toujours fait ça, on me dit, les atteintes graves. Alors, je prends du temps, je dis, attends, et prenez-moi un événement. Lequel ? Et je dis, prenez 10 minutes, réfléchissez, mettez-vous à 3, vous y étiez, et vous me le racontez dans 10 minutes. C'était où, à quelle heure, dans quel contexte, ça s'est passé comment, le moindre geste, la parole qui a commencé, à votre avis, ça vient d'où? On fait des hypothèses après et on analyse, mais je demande à voir. Parce que vous savez, quand on vous dit, il a frappé, ben vous connaissez tous ces exemples, j'en ai cité un encore, c'était hier. Vous savez, le prof qui discute dans un couloir, ça se t'attrape aussi avec un autre. Et puis un élève qui chahute beaucoup, puis qui est poursuivi, et il joue avec d'autres, et puis il court dans le couloir à toute vitesse, et puis il va tellement vite, il percute le prof dans le dos. Blah, le prof est projeté contre l'autre. Hein. Ça le fout dans un état pas possible. Il se retourne, il en mange une claque à l'élève, qui répond. Et voilà qu'ils se battent tous les deux. On a passé un mois à discuter de ça. Hein. Qui a tort? Qui a raison? Plainte des deux, de la famille et du jeune, et du prof. Eh bien, la police les faits, donc pas de suite. Et de notre part, après une longue discussion, on a conçu aussi que, bien sûr, c'était compréhensible, qu'on pouvait donner, je sais pas, un avertissement, peut-être à l'élève, parce qu'il ne devait pas courir dans le couloir, etc. Bon, d'accord, mais le prof n'avait pas à le frapper non plus. Résultat, on a aussi débouter les deux parties. Ce qui n'a pas plu du tout. D'ailleurs, le prof est parti l'année suivante, etc. Bon, des tas d'événements comme ça qu'on peut citer. Il faut toujours analyser les situations en entier. Et alors, c'est là que vous allez retrouver, mais vous avez des intervenants, toute cette dimension analyse, angoisse-émotion, ce coefficient angoisse-émotion, il est clair que moi-même, si je suis percuté dans le dos et si je tombe, en me relevant, il va falloir que je me contrôle. Parce que sinon, je vais avoir une légère tendance à, comme ça, ça va partir machinalement. Heureusement, j'étais entraîné, beaucoup moins maintenant, mais je ne frapperai pas spontanément, mais c'est vrai qu'en plus, si on rentre là-dedans, si vous voulez contrôler quelqu'un, un élève par exemple, surexcité ou qui tape quelqu'un, il faut savoir le faire, hein. Faut pas trop se lancer là-dedans n'importe comment. Alors tout ça, c'est l'indexicalité. Le rôle d'un chef d'établissement, c'est aussi d'avoir, et d'un établissement, c'est de pouvoir, en Angleterre, ils le font tranquillement ça. Il vous affiche les événements, il vous affiche les conseils de discipline. Et par exemple, de temps en temps, ils ont des petits, depuis longtemps, hein, ils ont des petits journaux, les établissements, et puis ils vous racontent ce qui va bien, ce qui se passe, les problèmes qu'on rencontre. Et ils font de la publicité, il y a une transparence quand même, que j'avais trouvée intéressante. Mais c'est vrai que ce n'est pas géré de la même façon. Les conseils d'administration ont un pouvoir bien supérieur au nôtre, hein, vous le savez. Et si vous prenez l'Educational Times, le journal... on va dire de l'enseignement, il y a plus de la moitié des pages sont des petites annonces. Et déjà en 90-91, on notait que des propositions de poste dans des lieux difficiles étaient proposées à 2 ou 3 fois le salaire d'un enseignant en terrain ordinaire, tranquille. Mais sans que les gens grimpent au mur. Hein. Ça, moi, ça ne m'a jamais trop gêné, parce que bon... Si on est en situation de crise ou si on veut travailler au milieu d'une favela... Effectivement, encerclé par les bazookas, il vaut peut-être mieux savoir à qui on a affaire. Hein. Être entre nous que pas. Alors, je conclue. Les permanences, c'est quoi? C'est ce qu'on avait vu dans notre première enquête internationale. J'avais comparé 20 établissements, Angleterre, France, Allemagne. La relation est toujours... La violence, c'est la relation violente, en fait, qu'il faut travailler. Il faut observer la question de la relation violente dans une institution, c'est-à-dire comment sont les rapports, les relations, qu'est-ce qui se passe dans les couloirs, où sont les toilettes, comment on circule, elles sont faites n'importe comment ou pas, est-ce qu'il y a une régulation de tout ça, est-ce qu'on va aux mêmes heures dans la cour ou pas, les accueils, comment on reconnaît les gens, les relations qu'on a avec le quartier, l'ouverture, enfin bon, les réseaux, le partenariat. La relation violente, elle est construite par cette indexicalité. Et on va toujours s'en sortir par un terme qu'employait Langouette, mais qui est employé par tous les spécialistes depuis 30 ans, une certaine mobilisation. Qu'on le veuille ou non, quand on est enseignant aujourd'hui, professionnel de l'éducation, éducateur, hein, ou que l'on travaille dans des institutions de cet ordre, on ne peut pas ne pas être mobilisé, mais mobilisé au sens émotionnel du terme, c'est-à-dire vigilant. Être là dans l'écoute, l'attente, et puis savoir travailler en groupe, c'est vrai qu'il y a énormément de dimensions de formation qui étaient d'ailleurs dans le projet des nouveaux IUFM en 90-92 et qui sont un peu tombées à l'eau, hein, parce que dans le projet IUFM, si vous en souvenez bien, le savoir occupait 40% du terrain. Le reste des savoirs, c'était des savoir-être, des savoirs techniques, des savoir-faire. Bon, moi j'ai eu de la chance de faire des formations très différentes, mais j'ai pu me trouver en Amérique centrale, dans n'importe quel endroit, je peux faire un cours au pied levé en un quart d'heure. Hein. Mais pas parce que je suis... C'est parce que j'ai des techniques de groupe, des trucs. Puis je commence à parler. Bon, quand j'ai commencé à parler un peu le portugais, on trouve des choses, les mettre en situation, comment on va contrôler un groupe de cet ordre. Vous arrivez le matin, je suis arrivé au Salvador, mon premier cours, j'avais 400 personnes dans la salle. 400 personnes. C'est ce que je fais, il fallait bien faire quelque chose. Donc j'ai organisé des groupes, des sous-groupes, des tas de trucs, puis j'ai commencé alors des cours limités, un temps, pas plus que ça, renvoi à des travaux de groupe avec des documentations, programmes, etc. Je suis plutôt du côté des méthodes actives, hein, clairement. Donc la relation violente, ça c'est le premier point de la permanence, c'est tout ce qui est relation violente. La recherche de synergie, donc on va chercher les synergies. Deuxième permanence, c'est vraiment, très très sur l'institutionnel. Donc analyser l'institution, mais tous les jours, tout le temps, il y a vraiment une observation à faire de sa propre institution, tous les jours. Et autant que faire se peut dans des petits groupes, bon je sais pas, j'ai vu des tas d'inventions, d'innovations, ça peut être les groupes de sécurité des années 90 qui marchaient parfois assez bien. Quand il y avait une conjonction entre la police, la justice et les chefs d'établissement, il y avait combien ils étaient, 8 ou 10 chefs d'établissement sur le Val-Fouré. Pendant 6 ans, il y a eu une synergie extraordinaire. Dès qu'il se passait quelque chose, tout ce réseau était au courant. Y compris ce réseau touché, par exemple. Les responsables des minorités, maghrébines, subsahariennes, africaines, etc. Un gamin posait un problème, avait touché... pas frapper, mais toucher une prof, c'est par la sœur qui dirigeait une association de femmes qu'elle réunissait dans un DHLM un peu plus loin qu'on contrôle la situation dans l'après-midi et que dans les 48 heures, en s'appuyant sur ce groupe, on va contrôler l'enfant et la famille. Des trucs très simples. Enfin, très simples. Il faut se mettre en réseau, quoi. Hein. Je vous dis tout de suite qu'après 2000-2002, à cause des raisons que j'ai invoquées, je pense, moi, quand on a basculé sur la délinquance, qu'on a perdu tout ça. Y compris dans la spécialisons-nous, quoi. Hein. Bon, puisque après la consigne, ça a été de moins travailler ensemble, quand même. Sauf sur la sécurité renforcée. Mais il n'y avait pas que ça, hein. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que... Je m'arrête. Alors, l'abus institutionnel et ce qu'on avait observé dans notre enquête internationale, aussi en permanence, c'est... Quelque chose de redoutable, c'est qu'il y a une banalisation du mal et de la violence avec l'âge. C'est-à-dire que les fins de l'école primaire, début du secondaire, on peut travailler. À partir de... Quand on va vers 14, 15, 16 ans, c'est fini. C'est-à-dire dans tous les sondages, tous les entretiens qu'on a pu faire et d'autres qu'on fait, ça devient fatal la violence s'il n'y a pas eu quelque chose avant. Hein. Alors les variations, je finis ma conclusion vraiment là-dessus. La plasticité, on peut appeler ça comme ça, la plasticité symbolique de l'institution. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ouverture, est-ce qu'il y a une... Ça dépend beaucoup de l'établissement et de l'équipe d'établissement. On a montré dans une recherche toute récente que si on arrivait à potentialiser l'estime de soi, y compris des mauvais élèves, on bouge des classes entières. la parole et ce qu'un chercheur en crimino appelle, bon, ce qu'on appelle l'empathie, le développement de l'empathie. La plupart de ces grands refoulés, de ces grands violents et de ces grands difficiles, ils n'ont pas la capacité d'identification empathique à l'autre. Donc s'il n'y a pas des situations pour le travailler, on est cuit. Et en fin de compte, bon, bah, c'est vrai que, avant tout, moi je pense qu'on est dans l'idéologie, c'est-à-dire que une institution, c'est le terme de Goffman, hein, les institutions ont leur idéologie. Et donc elles ont l'idéologie des gens qui les dirigent et qui les portent. Et il ne faut jamais oublier qu'une institution, elle commence par se pérenniser elle-même, si on la laisse faire. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de correctif, de reprise permanent à mettre en place, et que ça, c'est le travail des groupes qui sont dans l'établissement, ou de petits groupes de suivi de situation, par exemple, j'en ai vu dans différents établissements, des groupes comme ça, plus informels, qui se réunissent 2-3 fois par semaine, et qui répertorient les situations, et qui les mettent à l'étude. Donc voilà, mais c'est vrai que la subjectivité, elle va toujours opérer, c'est la subjectivité qui opère la violence, c'est-à-dire qui la rend finalement opérationnelle, c'est-à-dire que la violence, elle vient quand les mots manquent, dit l'un d'entre nous, hein. Les coups viennent à la place des mots. Voilà, merci.